Les cours du Collège de France, Antoine Lilti, chère Histoire des Lumières, 18e, 21e siècle.
Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, j'ai essayé, vous en souvenez, de tisser deux fils. D'une part, j'avais poursuivi ma réflexion sur la nécessité de pluraliser notre conception de l'universalisme des Lumières. Cela passait par un retour critique sur la façon dont toute une tradition historiographique a identifié la philosophie des Lumières à un universalisme abstrait, désincarné, hostile aux différences. D'autre part, en commentant le texte de Voltaire, j'ai voulu suivre l'intuition selon laquelle, au cœur des réflexions des Lumières sur l'universel, on trouve la question de la tolérance, c'est-à-dire la réponse à la fois théorique et pratique aux défis posés par la crise de l'universel chrétien qui avait dominé l'Europe pendant un millénaire. Alors vous allez me dire, la tolérance comme idée fondamentale des Lumières, bon, c'est pas d'une folle originalité. C'est bien la peine de traverser Paris par ce froid hivernal pour écouter de pareilles banalités, a fortiori, et je m'en excuse pour ceux qui sont debout, et je vous remercie par l'amitié d'être présent aujourd'hui. Alors j'en conviens, même si, pour ma défense, on a parfois tendance à oublier à quel point les Lumières puisent une partie de leur énergie dans le souvenir des guerres de religion qui ont désolé l'Europe au XVIe et XVIIe siècle. Toutefois, j'ai essayé, à partir du texte de Voltaire et des commentaires, vous en souvenez, qu'il a suscité au XXe siècle, j'ai essayé d'ajouter trois éléments un peu différents. Le premier, c'est l'importance de la métaphore du commerce et du marché comme figure de la tolérance et de la coexistence pacifique. Il faut prendre au sérieux ce motif, même si, évidemment, nous n'avons plus aujourd'hui le même enthousiasme naïf à l'égard des vertus du marché et que nous sommes un peu narquois à l'idée de faire de la bourse le lieu de l'universel. Et pourtant, il n'est pas forcément inutile de se souvenir que le commerce, qui au XVIIIe siècle, je vous le rappelle, désigne à la fois l'échange marchand et la sociabilité, le commerce a été une des grandes figures permettant de penser l'émancipation. Le deuxième point, c'est la dimension cosmopolite qui est attachée à la question de la tolérance, dès lors qu'il s'agit de la penser à l'échelle du monde, notamment sous l'effet des diasporas marchandes. Au demeurant, ce cosmopolitisme lui-même n'est pas sans ambiguïté. Comme me l'a fait remarquer Laurent Cuvelier, je le remercie, on peut aussi considérer que Voltaire impose une représentation européenne du commerce sans chercher à prendre en compte la diversité des pratiques marchandes. L'universalisme, qui permet la tolérance et le commerce pacifique, repose ainsi sur l'élargissement à l'échelle du monde d'un modèle occidental du capitalisme naissant, celui de la lettre de change et des bourses de commerce. Enfin, troisième point, grâce à la lecture d'Auerbach, nous avons introduit un doute. L'universalisme voltairien, fondé sur la raison, la tolérance et la satire, ne conduit-il pas à ridiculiser les croyances religieuses sous prétexte de les neutraliser? Ne va-t-il pas trop loin dans la négation des différences culturelles au nom d'une rationalité unique, en l'occurrence celle du marché? Et la satire elle-même, cette verve ironique et subversive que nous aimons tant chez les auteurs du XVIIIe siècle, eh bien, ne recèle-t-elle pas un danger potentiel lorsque, dans d'autres contextes, elle cible les minorités et non plus les puissances? Alors voilà, nous en étions là, lundi dernier, et ce sont ces points que je voudrais garder en tête aujourd'hui en poursuivant la réflexion sur ce lien entre tolérance et cosmopolitisme qui me semble définir un des axes possibles du rapport des Lumières à l'universel. Et pour cela, je voudrais repartir d'un auteur pour lequel Voltaire avait la plus grande admiration, un auteur qui n'a pas tout à fait la notoriété posthume du philosophe de Ferney, mais qui a joué un rôle fondamental dans l'histoire de la tolérance. Vous connaissez évidemment son nom, il s'agit de Pierre Bayle. Alors à vrai dire, je crois qu'on peut dire qu'on ne lit plus beaucoup aujourd'hui Pierre Bayle. On le cite parfois comme un repère dans l'histoire des idées, comme une sorte de prélude aux Lumières, notamment pour ses pensées sur la comète, un livre qu'il a publié en 1682 et qui est une attaque en règle, féroce, argumentée et jubilatoire contre l'astrologie et la superstition au nom de la science et de la raison. Bayle apparaît comme un jalon essentiel de ce que Paul Hazard appelait la crise de la conscience européenne, ce moment de transition à l'articulation des XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire l'époque de Spinoza, de Leibniz, de John Locke et de Bayle, auquel Hazard accordait une grande place. Alors, je viens de dire une époque de transition, mais ce n'est pas la bonne expression. Hazard parle, lui, d'une véritable révolution intellectuelle. Vous connaissez peut-être sa célèbre formule, je cite, « La majorité des Français pensaient comme Bossuet, tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire, c'est une révolution. » Alors bien sûr, c'est surtout une exagération. Et d'ailleurs, Hazard savait parfaitement que les révolutions intellectuelles ne se font pas du jour au lendemain, que les mentalités changent lentement et que ces changements ne se font jamais au même rythme dans les différentes catégories de la population. Mais il s'agissait, avec cette formule frappante, d'insister sur l'importance de cette période mal aimée et peu étudiée, sur le basculement qui se produit au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est-à-dire au moment, si vous voulez, où les évolutions qui étaient en germe se précipitent et donnent naissance à un monde intellectuel nouveau, celui dans lequel les Lumières vont prospérer. Et au cœur de cette période, donc, Pierre Bayle, qui est né en 1647 dans un petit village de l'Ariège, fils de pasteur, il se révèle doué pour les études. À 22 ans, il s'installe à Toulouse, où il se convertit au catholicisme et fréquente le collège jésuite. Mais au bout de 18 mois, il abjure et revient au calvinisme. Et pas du tout anodin, ça fait de lui un relapse aux yeux des autorités catholiques. Il part alors à Genève, puis obtient un poste à l'Académie de théologie de Sedan. Lorsque celle-ci est fermée en 1681, dans un contexte de durcissement de la politique de Louis XIV à l'égard des protestants, Bayle se réfugie à Rotterdam, où il vivra jusqu'à sa mort en 1707. C'est là qu'il écrira et publiera son dictionnaire historique et critique, en 1696, au cœur de ce qu'on appelle le refuge huguenot, ce haut lieu de la liberté de penser à la fin du siècle. C'est là surtout que 10 ans plus tôt, Bayle, donc en 1685, apprend la révocation de l'édit de Nantes. Il assiste à distance aux violences et aux persécutions qui s'abattent sur ses coreligionnaires, et notamment les terribles dragonnades, ces violences, exactions et même tortures exercées par des régiments de soldats, les fameux dragons, pour contraindre les protestants à se convertir. Pour Bayle, c'est une catastrophe politique, mais c'est aussi une tragédie familiale. Son frère Jacob, qui est pasteur, qui est resté, lui, en France, est arrêté en juillet et meurt en prison au château Trompette de Bordeaux en novembre, malgré les efforts désespérés du philosophe pour obtenir à distance sa libération. Bayle publie alors, l'année suivante, coup sur coup, deux ouvrages, donc en 1686, un pamphlet virulent contre la politique de Louis XIV qui s'appelle « Ce que c'est que la France toute catholique sous le règne de Louis le Grand », et vous notez évidemment l'ironie, et surtout un manifeste en faveur de la tolérance, sur lequel je vais m'arrêter un moment, intitulé « Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contraint-les d'entrer ». Dans ce texte fondamental, Bayle polémique contre ceux qui utilisent comme argument pour justifier les conversions forcées un passage de l'évangile de Saint-Luc, selon lequel un maître qui a préparé chez lui un grand repas ordonne à son serviteur, à la citation de l'évangile, « va par les chemins et par les haies et contraint-les d'entrer afin que ma maison soit remplie ». Depuis saint Augustin, l'interprétation allégorique de ce passage consistait à y voir une injonction à la conversion et même une justification de la contrainte. La force et la persécution sont légitimes dès lors qu'il s'agit de rallier les hérétiques à la vraie foi. Et cette interprétation venait d'être reprise par Bossuet, encore lui. Aujourd'hui, nous sommes tellement nourris de la culture moderne de la tolérance qu'il faut faire un effort pour se rappeler que dans l'univers mental de l'époque, et encore au XVIIe siècle, il y avait de fortes raisons dans cet univers, de justifier la violence missionnaire. Éviter aux hérétiques la damnation éternelle en les obligeant à rejoindre la véritable Église, contribuer à la grandeur et à la gloire de l'Église catholique, unifier la monarchie sous une foi unique, selon le principe « un roi, une foi, une loi ». Bayle n'écrit ni un pamphlet ni une satire, mais un traité philosophique qui le conduit à argumenter pied à pied pendant plusieurs centaines de pages, de façon à détruire méthodiquement tout argument en faveur de la contrainte en matière religieuse. Deux principes guident sa réflexion. Premièrement, il est impossible de trancher sur le plan de la raison la question de la vérité religieuse. Celle-ci ne relève que de la foi. Je le cite, « Il est impossible dans l'état où nous nous trouvons de connaître certainement que la vérité qui nous paraît, entre parenthèses, je parle des vérités particulières de la religion et non pas des propriétés des nombres ou des premiers principes de métaphysique ou des démonstrations de géométrie. Donc, que la vérité qui nous paraît est la vérité absolue. En matière religieuse, il est impossible de démontrer qu'une religion est plus vraie qu'une autre. C'est une proposition qui est extrêmement radical. Le second, dans le contexte théologique évidemment de l'époque. Le second principe, non moins important, est l'obligation morale pour chaque individu de suivre ce que lui dicte sa conscience. Je cite encore, « La première et la plus indispensable de nos obligations est celle de ne point agir contre l'inspiration de la conscience. Il est non seulement illégitime, mais par surcroît totalement inefficace, dit Bayle, de prétendre convertir quelqu'un par la contrainte. Cela ne peut faire que de faux convertis, des hypocrites ou des martyrs. Et la conséquence de ce double principe est un éloge du pluralisme religieux. Les religions n'ont pas à disparaître. Elles sont importantes sous l'angle de la foi et il importe de respecter les droits de la conscience individuelle, mais elles doivent coexister pacifiquement dans le respect mutuel, aucune ne pouvant prétendre exercer un monopole de la vérité. » Je cite un passage assez long, vous avez sous les yeux, « Il n'y a pas, dit-on, de plus dangereuse peste dans un État que la multiplicité des religions, car cela met en dissension les voisins avec les voisins, les pères avec les enfants, les maris avec les femmes, le prince avec ses sujets. » Je réponds que bien loin que cela fasse contre moi, c'est une très forte preuve pour la tolérance, car si la multiplicité des religions nuit à un État, c'est uniquement parce que l'une ne veut pas tolérer l'autre, mais l'engloutir par la voie des persécutions. In prima mali labes, c'est là l'origine du mal. Si chacune des religions, avait la tolérance que je soutiens, il y aurait, et ce passage est fondamental, il y aurait la même concorde dans un État divisé en 10 religions que dans une ville où les diverses espèces d'artisans s'entre-supportent mutuellement. Tout ce qui pourrait y avoir, ce serait une honnête émulation à qui plus se signalerait en piété, en bonne mœur, en science. » La critique de l'intolérance conduit ainsi à un éloge de la diversité, de la bigarrure, écrit Bayle, d'une émulation vertueuse entre les religions, qu'il compare, dans le passage qui suit celui qu'on vient de lire, à un concert où l'harmonie de plusieurs voix et instruments différents est plus agréable, dit-il, que l'uniformité d'une seule voix. Bigarrure ou uniformité, voilà la question du pluralisme ouvertement posée. Alors l'originalité de Bayle a été souvent remarquée, mais elle a été très fortement soulignée par le philosophe allemand contemporain Rainer Forst, qui a consacré un livre important à l'histoire des conceptions occidentales de la tolérance. Il invite à distinguer nettement deux traditions intellectuelles. La première remonte au XVIe siècle et a servi de fondement aux édits de tolérance qui visaient à mettre fin aux guerres de religion en imposant la force pacificatrice de l'État. Dans cette perspective, qui était portée en France par ceux qu'on appelle les politiques, par exemple le chancelier Michel de l'Hôpital, eh bien la tolérance consiste à autoriser, pour assurer la paix civile, des croyances que par ailleurs on réprouve, que l'on condamne, que l'on considère comme fausses, mais qu'il est préférable de tolérer à la façon dont on supporte un mal dont on ne peut se débarrasser. Cette conception ne s'accompagne, il faut bien le noter, d'aucune reconnaissance. C'est juste une permission donnée par la monarchie au nom de la raison d'État. C'est cette conception de la tolérance minimale, en quelque sorte, qui explique que la notion ait eu longtemps mauvaise réputation, comme si elle était une vertu un peu honteuse, presque une sorte de faiblesse. Vous connaissez sans doute la mauvaise blague de Paul Claudel qui disait « La tolérance, il y a des maisons pour cela ». Bayle, pour sa part, est un des principaux théoriciens d'une autre conception de la tolérance qui est issue des milieux protestants néerlandais de la fin du XVIIe siècle et qui met en avant non plus la raison d'État, mais la liberté de conscience. Il ne s'agit pas seulement de tolérer des religions hérétiques au nom de la paix civile comme un moindre mal, mais d'affirmer le principe supérieur de la liberté individuelle. Alors la lettre sur la tolérance, écrite par John Locke durant son exil en Hollande et publiée à son retour en Angleterre en 1689, au moment de la Glorieuse Révolution, est souvent présentée comme le grand manifeste philosophique de cette théorie libérale de la tolérance. Mais Bayle, en réalité, va plus loin que John Locke, parce qu'il étend la tolérance aux athées, alors que Locke s'y refuse très explicitement. Pour Locke, comme pour beaucoup d'auteurs des Lumières après lui, une croyance au moins minimale en Dieu est nécessaire pour assurer que les individus se comportent moralement et qu'ils respectent leurs engagements les uns envers les autres. Bayle, en revanche, avance l'hypothèse d'une société d'athées vertueux. C'est la grande hypothèse de Bayle. Une société d'athées vertueux est possible. Et il pousse ainsi jusqu'à sa dernière logique, la séparation radicale de la foi, pure question de conscience individuelle, et de la morale, fondée sur la raison, qui repose sur les principes universels de la lumière naturelle, accessible à tous, sans qu'il y ait besoin de craindre la justice divine. Il faut prendre la mesure de l'audace de cette pensée dans cette toute fin du XVIIe siècle. Audace qui a valu à Bayle d'être très durement attaqué, non seulement bien sûr par ses adversaires catholiques, mais aussi par les théologiens protestants, notamment par son ancien ami Pierre Jurieux. Et d'ailleurs, en 1693, on lui retire sa chaire à l'université de Rotterdam. Bayle a payé son audace et sa liberté intellectuelle d'une grande solitude. Mais Bayle aussi, il faut le noter, se distingue de la conception de Voltaire, telle que nous l'avons vue la semaine dernière, au sens où il ne cherche jamais à se moquer des religions, à les tourner en dérision ou à les réduire à la superstition. La sincérité de la croyance, l'autorité, l'authenticité de la foi lui paraissent hautement respectables. C'est justement en leur nom qu'il défend la tolérance. Celle-ci n'exige pas seulement de voir en l'autre un semblable, comme si les différences confessionnelles n'étaient que superficielles, mais de reconnaître l'autre comme différent et de reconnaître sa foi différente comme tout aussi authentique et sincère que la sienne, et donc tout aussi respectable. La tolérance n'est ni l'autorisation politique de l'erreur, ni la négation de la diversité religieuse au nom de la raison universelle, mais une véritable politique de respect mutuel et de réciprocité. Alors, vous le savez sans doute, les spécialistes n'ont cessé de débattre pour identifier quelle était au fond la véritable position de Bayle sur le plan religieux et philosophique. Dire c'est à ça que servent les spécialistes. Quelle était, que pensait vraiment Pierre Bayle ? Était-il un sceptique ? Était-il un athée spinoziste déguisé ? Était-il un authentique calviniste, voire un calviniste libertin, selon la formule oxymorique d'Hubert Bost, qui traduit bien l'embarras des chercheurs à l'égard de cet auteur à la fois radicalement critique de tout dogmatisme et intimement attaché à sa confession. On peut aussi insister sur l'inquiétude profonde de Bayle quant à la nature humaine et notamment sur la capacité des individus à agir en fonction de leurs croyances et de leurs principes, ce fond de noirceur que Bertrand Binoche a souligné et qui fait de Bayle un auteur bien plus pessimiste qu'il n'y paraît à travers ce que je viens de vous dire. Alors plutôt que d'entrer dans ces débats sans fin, je voudrais souligner un autre point plus rarement relevé, le fait que Bayle inscrit cette apologie de la tolérance dans un horizon cosmopolite, celui d'une ouverture au monde non chrétien. Ou peut-être faudrait-il dire plutôt, c'est mon hypothèse, qu'il est conduit par la logique même de l'éloge de la pluralité confessionnelle à envisager la question de la tolérance à l'égard des religions non européennes dans une logique de réciprocité. Non seulement, je vous l'ai dit, la tolérance est élargie aux athées, et encore une fois, c'est une rupture fondamentale, mais elle est aussi élargie aux juifs et aux musulmans, et en ce sens, elle est véritablement universelle. Bayle va jusqu'à imaginer des missionnaires musulmans envoyés en Europe, et il défend l'idée qu'il faudrait les accepter. Ah, c'est intéressant, ça. L'argument est double. Premièrement, celui de la réciprocité. Enfin, principalement, je vais insister sur celui-là, sinon ça va nous mettre... L'argument principal est celui de la réciprocité. Car si les chrétiens persécutaient des missionnaires turcs à Paris, ils n'auraient pas à se plaindre que les chrétiens soient attaqués en Chine ou au Japon. Lisons ce passage. Ainsi, s'ils prenaient fantaisie au mufti d'envoyer en chrétienté quelques missionnaires, comme le pape en envoie dans les Indes, et que l'on surprit ces missionnaires turcs s'insinuant dans les maisons pour y faire le métier de convertisseurs, je ne pense pas qu'on fût en droit de les punir. Car s'ils répondaient les mêmes choses que les missionnaires chrétiens répondraient dans le Japon en pareil cas, savoir que le zèle de faire connaître la vraie religion à ceux qui l'ignorent et de travailler au salut de leurs prochains dont ils déplorent l'aveuglement les a engagés à venir faire part de leur lumière. De leur lumière. Lumières sont aussi de ce côté-là. Et que sans avoir égard à cette réponse, ni les ouïr dans leur raison, on les pendit, ne serait-on pas ridicule de trouver mauvais que les Japonais en fissent autant ? Vous voyez, c'est le principe de réciprocité qui pousse cette idée de tolérance jusqu'à une idée qui, dans la France, l'Europe de la fin du XVIIe siècle, pouvait paraître totalement provocatrice et paradoxale, l'idée que des missionnaires musulmans envoyés par les Turcs devaient être accueillis en Europe. Alors, Bayle développe d'autres arguments en faveur de sa thèse. Je remarque une chose, c'est que Bayle a formulé, je vais insister sur une chose, c'est que Bayle a formulé des questions qui ont, après lui, traversé tout le XVIIIe siècle. Dès lors que la raison a pris la place de la religion pour fonder la morale commune et régler les comportements sociaux, quelle place faut-il faire dans l'ordre social aux religions ? Faut-il les considérer comme dangereuses et inutiles, fondamentalement indissociables de la superstition et du fanatisme? Ce sera la réponse des matérialistes conséquents comme d'Holbach. Faut-il les épurer de leurs dogmes pour n'en garder que la base commune, celle d'une morale universelle? C'est la tradition qui mène du déisme à ce que Kant appelle, à la fin du siècle, la religion dans les limites de la simple raison, qui est le titre de son livre de 1793. Ou encore, faut-il faire une place à la foi et aux religions révélées, mais en les séparant totalement de l'ordre social? Et comment celui-ci sera-t-il régulé dès lors que la religion n'en assure plus la cohésion, par les mœurs, par l'opinion, par le droit ou par le commerce? Alors, toutes ces questions sont au cœur des débats des Lumières, mais je voudrais suivre aujourd'hui une autre piste, celle que nous avons vue s'ouvrir à l'instant chez Pierre Bayle, lorsqu'il évoque les missionnaires turcs en Europe, ou la semaine dernière chez Voltaire. L'hypothèse est la suivante: l'idéal de tolérance, qui implique la reconnaissance de la pluralité et de la pluralité légitime des confessions religieuses, ruine les fondements de l'universalisme chrétien, c'est entendu, à la fois comme idéal d'unité ecclésiale et comme ambition missionnaire. Mais ce faisant, il ouvre sur une autre question, celle du cosmopolitisme, c'est-à-dire des liens qui peuvent ou doivent s'instituer au-delà des frontières confessionnelles, culturelles et politiques habituelles, sur la base d'une foi unique, mais d'une commune humanité. Alors, le cosmopolitisme a une histoire ancienne. Sur le plan de l'histoire des idées ou de la philosophie, on considère souvent qu'il trouve ses racines dans la philosophie hellénistique, chez les cyniques, d'abord avec Diogène, puis chez les stoïciens. C'était à l'origine une pensée contestataire qui s'opposait à l'évidence de la cité comme lieu d'enracinement de la vie politique et culturelle. Vous vous souvenez peut-être que dans l'universalisme romain dont nous avions parlé en décembre, du moins tel que Claudia Moatti le décrit, le cosmopolitisme stoïcien jouait un rôle important, notamment à travers Cicéron, en définissant l'homme par la raison et non par l'ethnicité. Mais cette perspective a été par la suite à la fois absorbée et effacée par l'universalisme chrétien. Il n'est donc pas surprenant de voir ressurgir la question du cosmopolitisme au XVIIIe siècle comme ressource pour refonder un horizon universaliste. Il s'agit dès lors de fonder la morale non sur une cohésion nationale, patriotique ou culturelle, mais sur une perspective véritablement mondiale, celle du citoyen du monde. Autrement dit, adopter un point de vue cosmopolite implique de poser désormais des questions morales ou politiques à l'échelle de l'humanité. Alors, il y a dans le cosmopolitisme, bien entendu, un double mouvement, comme l'a rappelé le philosophe ghanéen Kwame Appiah. Premièrement, il faut reconnaître que nous avons des obligations envers tous les autres êtres humains, au-delà des liens de parenté, d'amitié ou de nationalité. En cela, le cosmopolitisme est bien un universalisme. Il déjoue les frontières, recherche l'ouverture et la réciprocité. Ensuite, c'est le second mouvement, il manifeste un intérêt pour la diversité des cultures, pour la pluralité des pratiques et des croyances qui donnent un sens à la vie humaine. Cet universalisme n'est donc pas une abstraction, ni un désir d'unification mondiale, mais plutôt une façon d'affronter la vérité des autres, selon la belle formule du sociologue Ulrich Beck, c'est-à-dire de répondre aux défis posés par l'altérité. Alors, voilà qui peut paraître un peu général, et même légèrement anachronique, d'autant que je viens de citer un philosophe et un sociologue contemporain. Pourtant, il n'en est rien. Le succès de l'idéal cosmopolite au XVIIIe siècle, qui est bien réel, est ancré dans les transformations concrètes de la mobilité et des sociabilités, comme l'a abondamment montré Daniel Roche, notamment dans son grand livre « Humeur vagabonde ». L'essor des routes et des transports qui facilitent les voyages, la vogue du grand tour européen, le développement des métropoles comme Paris et Londres, alimentés par l'arrivée de provinciaux et par l'accueil des étrangers, mais aussi les réseaux des académies savantes, le développement de la presse périodique qui apporte des nouvelles de l'Europe et même du monde, et bien sûr, la franc-maçonnerie et son réseau de loges. À la fin du siècle, on compte plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers de loges en Europe. Mais on en trouve aussi en Amérique, dans les colonies, par exemple aux Antilles, et dans les grands ports méditerranéens du Levant, fréquentés par les voyageurs et les marchands européens. Elles portent avec elle un idéal fraternel et transnational qui permet de parler d'une république universelle des francs-maçons, c'est l'expression. Même si cet universalisme trouve ses limites, comme l'a montré Pierre-Yves Beaurepaire, quand il s'agit d'accepter les juifs, les femmes ou les personnes de couleur. Il reste que le succès considérable de la franc-maçonnerie dans la deuxième moitié du siècle témoigne de l'enracinement de cet idéal cosmopolite fondée sur la pratique du voyage. Vous savez que les loges servent très souvent à accueillir des voyageurs. Elles sont, de ce point de vue-là, un réducteur d'altérité. Donc fondée sur la pratique du voyage, sur la curiosité pour la diversité et sur un idéal de sociabilité affranchi ou partiellement affranchi des contraintes traditionnelles des sociétés d'ordre. Plus généralement, l'Europe du XVIIIe siècle est marquée par le passage de sociétés locales où la mobilité était une exception, à des sociétés plus ouvertes, des sociétés en mouvement, comme disait Daniel Roche, qui écrit aussi ceci, « Les grands philosophes des Lumières ont pensé la modernité comme le passage d'une situation dominée par des communautés relativement fermées sur elles-mêmes à une époque, à une époque universelle, celle des mondes indépendants, interdépendant du fait de l'action du commerce et de l'action des valeurs éclairées. » Fin de la citation de Daniel Roche. Le commerce international, tel que nous l'avons rencontré à partir de Voltaire la semaine dernière, n'est qu'un des éléments de cet élargissement et de cette accélération des formes de l'échange qui touchent tous les domaines de l'activité dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le mot même, cosmopolite, alors le mot cosmopolite, on peut le chercher dans les dictionnaires, il est absent de la première édition du dictionnaire de l'Académie en 1694. Il fait son apparition dans le dictionnaire de Trévoux en 1721 pour désigner, je cite, « un homme dont tout le monde est la ville ou la patrie. Je suis un cosmopolite, c'est-à-dire un citoyen de l'univers. » 1721. Et puis progressivement, le mot en français prend un double sens, celui de citoyen du monde, donc, celui qui se trouve bien partout, émancipé des communautés locales, mais aussi progressivement le sens d'un homme sans attache, qui donc n'aime rien ni personne. Comme l'écrit Rousseau, tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la figure du cosmopolite s'oppose de plus en plus, en bien ou en mal, à la figure désormais valorisée du patriote. Quand le mot entre dans le dictionnaire de l'Académie en 1762, c'est avec cette signification « cosmopolite, celui qui n'adopte pas de patrie. Un cosmopolite n'est pas un bon citoyen. » Cette ambiguïté est très présente, par exemple, dans le roman de Fougeray de Montbron, un roman qui était absolument formidable, mais qui a été un peu oublié maintenant, qui s'appelle « Le cosmopolite » ou « Le citoyen du monde ». Il y a eu pourtant, vous le voyez, une réédition relativement récente. Roman qui met en scène une figure ambivalente de voyageur revenu de tout, ayant connu tous les pays, qui est chez lui partout, mais n'a de lien nulle part, et qui termine singulièrement désabusé. Spectateur cynique de l'universelle bêtise humaine. Je cite un passage du roman « Je suis un être isolé au milieu des vivants. L'univers est pour moi un spectacle permanent où je prends mes récréations gratis et je regarde les humains comme des battleurs qui me font quelquefois rire, quoi que je ne les aime ni ne les estime. » Diderot appelait d'ailleurs Fougeray « l'homme au cœur velu ». Et il l'a peut-être pris comme modèle pour son neveu de Rameau. Alors le cosmopolite est-il nécessairement misanthrope? En tout cas, c'est le danger qui le guette. En s'affranchissant des préjugés et des communautés naturelles, il prend le risque de se couper, paradoxalement, de ce qui fait l'humanité, les liens affectifs avec ses semblables. Alors il est vrai que d'autres auteurs, en revanche, vont affirmer la valeur et la grandeur de l'idéal cosmopolite, notamment dans le cadre politique et géopolitique. Lorsqu'il publie en 1795 son traité « Vers la paix perpétuelle », Emmanuel Kant affirme l'existence même d'un droit qu'il appelle « cosmopolitique », c'est-à-dire distinct à la fois du droit civique, c'est-à-dire des droits nationaux, et du droit des gens, ce qu'on appelait le droit des gens, c'est-à-dire pour le droit international. Ce droit cosmopolitique, sans lequel la paix mondiale est impossible, considère les individus, je cite Kant, comme les citoyens d'un État universel des hommes. Un État qui, évidemment, n'existe pas comme entité politique, mais qui repose sur l'existence d'un seul monde, un monde commun, au sein duquel il s'agit de favoriser les relations mutuelles entre les différentes parties afin d'avancer l'unité, dit Kant, du genre humain. Et le principe premier de ce droit cosmopolitique, eh bien, Kant nous dit que c'est celui de l'hospitalité universelle, c'est-à-dire, selon Kant, le droit, et je cite, le droit pour l'étranger, à son arrivée sur le territoire d'un autre, à ne pas être traité en ennemi. Ce qu'il appelle aussi le droit de visite, et qu'il prend bien soin de distinguer des entreprises coloniales européennes qu'il condamne fermement. Vous voyez que l'universalisme cosmopolite des Lumières n'est pas totalement inactuel, du moins il faut le souhaiter. Je reviendrai sur cette question du cosmopolitisme juridique dans une prochaine séance, c'est un sujet considérable. Je voudrais aujourd'hui garder le cap qui est le mien dans cette séance en m'arrêtant sur ce qui est à mes yeux le grand manifeste de la tolérance cosmopolite du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la pièce de Lessing, Nathan le Sage. En Allemagne, après avoir été censuré au XVIIIe siècle, Nathan le Sage est devenu un symbole de la Aufklärung. Elle a été jouée tout au long du XIXe siècle, quoique sous une forme un peu édulcorée. Elle a été interdite en 1933 par les nazis, qui ne supportaient pas une pièce dont le personnage principal et positif était juif. Symbole de la défaite du Reich, la pièce fut jouée en septembre 1945, dans Berlin en ruine, pour la réouverture du Deutsche Theater. Et elle est restée depuis un texte phare de la littérature allemande, ainsi qu'un classique scolaire. En France, en revanche, Lessing reste méconnu, et Nathan le Sage n'a été représenté sur scène pour la première fois qu'en 1987, plus de deux siècles après avoir été écrit par Lessing. Donc c'était à Gennevilliers, avant d'accéder aux honneurs d'Avignon et de la Comédie française 10 ans plus tard. Et vous voyez, c'est très tard. Alors, puisque la pièce n'est pas si bien connue du public français, quelques mots pour vous en résumer l'intrigue. L'histoire se passe à Jérusalem, au XIIe siècle, donc pendant la Troisième Croisade, et met en scène un riche marchand juif, Nathan donc, qui élève sa fille Racha. Celle-ci est sauvée d'un incendie par un templier, c'est-à-dire un chevalier chrétien, qui vient lui-même d'être gracié par Saladin, figure de souverain musulman éclairé, qui a été troublé par la ressemblance entre ce soldat chrétien et son propre frère décédé. Alors, je ne vous raconte pas toute l'histoire, je vais directement au cœur de la pièce. Enfin, je vous raconterai tout à l'heure le dénouement. J'ai un peu divulgaché, bon, mais c'est pas grave. Mais je vais directement pour l'instant au centre de la pièce, c'est-à-dire à l'acte 3, au moment où se trouve l'épisode le plus célèbre. Nathan est convoqué par Saladin, qui a besoin d'argent, mais qui décide d'abord de le mettre à l'épreuve en lui demandant de dire, au nom de la sagesse qu'on lui prête, quelle est la véritable religion parmi les trois monothéismes. Ça, c'est l'épisode célèbre de la pièce. Nathan, qui est sage, donc, flaire tout de suite le piège. Bon, il y a un brouille. Et Saladin a beau être très tolérant et éclairé, il serait quand même assez imprudent de lui vanter la supériorité du judaïsme sur l'islam. Alors il réfléchit, il est un peu embêté, il demande un temps de réflexion, et puis il s'en sort en racontant un conte, qui est évidemment une parabole. C'est l'histoire d'un vieil homme qui possédait une bague magique, qui décida de la léguer à son fils préféré, qui devait lui-même la léguer à son fils le plus méritant, et ainsi de suite. Et au bout de quelques générations, un père, incapable de choisir entre ses trois fils, tous aussi aimables et vertueux, décide de faire fabriquer deux faux anneaux absolument semblables au premier et d'en léguer un à chacun de ses fils en lui assurant qu'il s'agit du vrai. Ce qui enclenche, dès sa mort, de terribles conflits entre les trois frères qui avaient beau être aimables et vertueux et s'aimaient beaucoup les uns les autres, commencent à se disputer. Chacun étant évidemment certain que ses deux frères sont dans l'erreur, voire qu'ils sont des imposteurs puisqu'il est le seul véritable possesseur de l'anneau. Bon, entre nous, c'est une parenthèse, mais c'est une terrible erreur psychologique de la psychologie paternelle. Bon, ça, c'est une autre question, mais enfin, ça part de bonnes intentions, mais enfin, c'est vraiment pas le truc à faire. Bon, alors, vous aurez reconnu que le thème n'a pas été inventé. Cette histoire des trois contes, vous le savez sans doute, n'a pas été inventée par Lessing, puisqu'il la reprend d'une histoire, d'une nouvelle, du Décaméron de Boccace. Alors, à vrai dire, d'ailleurs, ce conte, conte des trois anneaux chez Boccace, a lui-même une histoire plus ancienne, puisqu'on la retrouve comme métaphore de la tolérance, et comme l'a montré Maurice Kriegel, dans plusieurs textes juifs en Espagne au XIVe siècle. Mais bon, je ne me lance pas dans une enquête philologique sur les origines de cette parabole, ça nous entraînerait trop loin, surtout beaucoup trop loin de mes compétences. Et c'est seulement l'occasion de rappeler une fois de plus que les écrivains des Lumières, même lorsqu'ils innovent, ne le font jamais ex nihilo, mais à partir d'autres traditions intellectuelles et culturelles, ici celles des Lumières médiévales, et oui, ça existe, et de même qu'il existe des traditions non-européennes de la tolérance, par exemple en Inde, il y a une citation, que formule frappante d'Amartya Sen que j'aime bien citer, « Giordano Bruno fut brûlé pour hérésie sur le Campo dei Fiori à Rome en 1600, alors même qu'Akbar s'exprimait sur la tolérance à Agra. Bon. » Alors, c'est une parenthèse, revenons à Lessing. Chez Boccace, l'anneau était simplement un objet précieux. Dans Nathan le Sage, il est en outre doté d'un pouvoir magique, celui de rendre aimable celui qui le porte. Ce qui est évidemment une conséquence importante, car s'il est impossible de distinguer les anneaux entre eux, on peut essayer de prouver leur pouvoir en agissant vertueusement et en se faisant aimer des autres. Autrement dit, comme le relève Philippe Zard dans son livre de Shylock à Sinoc, essai sur les judaïsmes apocryphes, le conflit entre les trois monothéismes n'est plus une controverse théologique ou métaphysique portant sur l'antériorité ou la vérité. Il devient l'enjeu d'une émulation morale, éthique. Les religions ne sont plus fondées sur l'authenticité de la révélation, ni même sur la sincérité de la foi intérieure, comme chez Bayle, mais elles ne sont pas non plus insignifiantes ou absurdes, comme chez Voltaire, a fortiori chez les auteurs matérialistes. Elles sont jugées sur leur capacité à susciter des comportements vertueux, ou plutôt éthiques, puisque la vertu est définie désormais dans le rapport aux autres. Il ne s'agit pas de plaire à Dieu, mais de se faire aimer des hommes. La vertu est totalement sécularisée. Ce qui compte, c'est la façon dont les religions contribuent à l'œuvre commune d'humanité. Alors, évidemment, la question qui se pose, et que les commentateurs du texte n'ont cessé de se poser, la suivante, est-ce qu'un des anneaux est le bon ? Ou l'anneau authentique s'est-il perdu depuis longtemps ? Alors, dans la seconde hypothèse, les trois anneaux sont des faux, et seuls comptent la moralité humaine. On peut tolérer les religions, mais elles n'ont aucune prétention à la vérité. Dans le premier cas, c'est un peu différent. Il y a bien une religion qui possède la vérité, mais simplement, les humains n'ont aucune possibilité de déterminer laquelle, a priori. Ce qui me paraît, moi, significatif, c'est que Lessing laisse cette question ouverte. Il ne veut pas la trancher, il ne l'ignore pas, mais il la laisse en suspens. Et cela correspond parfaitement à ce que l'on sait par ailleurs des hésitations de Lessing, qui a souvent reconnu être ballotté entre la foi, le déisme et le scepticisme, Ce qui ne l'empêche pas d'ailleurs de se lancer à corps perdu dans des polémiques théologiques. C'est un grand polémiste, Lessing. Et d'ailleurs, lui-même a été au cœur d'une des plus grandes controverses de son temps, à titre posthume, lorsque Jacobi l'a accusé après sa mort d'avoir été secrètement spinoziste, suscitant la réaction scandalisée de Moses Mendelssohn, le grand philosophe juif allemand, ami justement de Lessing, et dont tout le monde savait qu'il avait été le modèle de Nathan le Sage. Or, la question de savoir quelle était exactement la position de Lessing sur un plan théologique ou métaphysique, là encore, comme avec Bell tout à l'heure, à mes yeux, est secondaire. Le recours à la fiction lui permet justement de mettre la vérité en débat sans trancher, en évitant tout dogmatisme. Lui qui a toujours affirmé qu'il préférait la recherche de la vérité à la vérité elle-même. Il faut donc parler d'un double recours à la fiction. Car la parabole est un conte à l'intérieur d'une fiction, une pièce de théâtre. C'est en quelque sorte une fiction au carré. Non seulement l'auteur Lessing laisse planer une incertitude, obligeant le spectateur à faire un effort d'interprétation, mais le personnage, Nathan, lui-même a recours à la fiction, cette fois comme un stratagème, une astuce, lui permettant d'exprimer son message sans trop s'exposer. Car ici se loge la suprême ironie de Lessing, cette parabole où tout le monde veut voir la grande leçon philosophique de la pièce. Eh bien, Lessing, lui, la présente comme une simple ruse. Vous vous rappelez, Nathan était un peu inquiet au moment de répondre à la question de Saladin. Il se croit perdu, à la limite de la panique, et puis il se décide en disant, et c'est la phrase, « J'ai ce qu'il faut pour me sauver, il n'y a pas que les enfants que l'on nourrit avec des contes. » La fable est donc une échappatoire. Elle lui permet de parler au nom de l'universel, ni en tant que juif, ni en tant que non-juif, mais au nom d'une sagesse transfigurée en puissance narrative, en inventivité fictionnelle. L'univers peut bien nous écouter, fanfaronne-t-il, avant de commencer son récit. En effet, seule la fable permet d'énoncer une vérité universelle que chacun est ensuite libre d'interpréter. Et d'ailleurs, Nathan s'en amuse. Quand Saladin lui dit que le peuple appelle Nathan le sage, il rétorque que cette sagesse n'est peut-être que de l'habileté. Elle n'est peut-être que le sens de son intérêt. En ce sens, dit-il, il ne serait que, au fond, que Nathan le malin, celui qui a fait fortune avec habileté. Il affirme ainsi une proximité très grande entre l'intérêt marchand et la sagesse, ce qui est une façon aussi de tenir à distance le sérieux de la fable. Et d'ailleurs, c'est un point que l'on néglige souvent. Nathan est un marchand. Au début de la pièce, il est en voyage pour ses affaires. Et de fait, l'argent joue un rôle non négligeable dans l'intrigue, en particulier parce que Nathan prête de l'argent à Saladin et que c'est ce prêt qui scelle leur amitié par la suite. Ici encore, le commerce, vous le voyez, est au cœur de l'idéal cosmopolite. Il est la figure même de l'échange. Le rapport du juif à l'argent est inversé, évidemment, par rapport aux stéréotypes traditionnels hostiles aux juifs. Ici, c'est sa richesse qui lui permet d'être utile grâce à sa générosité. Si la controverse théologique est désormais sans objet, remplacée par une fable, en revanche, le commerce et l'argent, eux, sont bien réels. Ils créent des liens entre les individus, ils sont les vecteurs d'un dépassement cosmopolite des identités communautaires. Revenons toutefois à la fable des trois bagues. Les frères, désormais en guerre les uns avec les autres, ont recours à un juge. Celui-ci affirme que les bagues sont sans doute fausses, ce qui fait d'eux des trompeurs trompés. C'est pas des imposteurs, c'est des trompeurs trompés. Par ailleurs, plus attachés à s'aimer eux-mêmes qu'à se faire aimer des autres. Mais ici, par un retournement inattendu, le juge les encourage non pas à abandonner leurs bagues, elles sont fausses, ils pourraient les jeter, non, mais au contraire, à continuer à croire en leur pouvoir. Ah, ça c'est étonnant. Si chacun de vous a reçu la bague de son père, dit le juge, que chacun, en toute certitude, la tienne pour vraie. Comment expliquer ce verdict du juge ou ce conseil? Alors d'abord, la pluralité des religions est une vertu. Peut-être votre père, ajoute le juge, n'a-t-il pas voulu tolérer plus longtemps dans sa maison la tyrannie d'un seul anneau? Autrement dit, mieux vaut trois erreurs qu'une vérité unique. Ah, ce n'est pas tout à fait l'idée qu'on a habituellement de l'épistémologie des Lumières, c'est intéressant. Mieux vaut trois erreurs qu'une vérité unique. Surtout, chaque frère est invité à rivaliser de vertu et de tolérance pour prouver qu'il a la vraie bague. C'est l'idéal d'émulation éthique que j'ai déjà souligné. Mais il y a plus. Les religions ne se définissent plus par leur rapport transcendant à la vérité, mais par leur mode de transmission, par le lien historique qu'elles constituent entre les générations. Ainsi, il y a une rationalité à rester fidèle à la religion de ses ancêtres, à condition, bien sûr, d'en faire une base de tolérance et de lumière, sans prétendre au monopole sur la vérité. Comme le dit Nathan à Saladin, « Comment croirais-je moins mes pères que toi les tiens ?» ou inversement. Lexing suggère ainsi que chacun est légitime à rester fidèle à sa religion, à celle qui lui a été transmise, du moment qu'il n'en conserve que ce qui le fait agir dans le bien commun. La critique de l'intolérance aboutit à l'éloge du pluralisme. Et d'ailleurs, Saladin insiste sur cette diversité dans le discours qu'il tient aux Templiers. Il dit « Chrétien ou musulman, n'importe, en manteau blanc ou en caftan, avec un turban ou ton couvre-chef, comme tu voudras, je n'ai jamais exigé que tous les arbres eussent la même écorce. » Tel est le vrai sens du cosmopolitisme, non pas l'uniformité, mais la reconnaissance de la diversité. Toutefois, ce n'est pas le dernier mot de Lessing, qui affirme aussi la nécessité d'échapper à sa communauté, de se libérer des préjugés dont on a hérité. Il ne suffit pas pour cela d'en prendre conscience, d'en faire la critique, ni même de s'en moquer, car, déclare le Templier, et j'adore cette phrase, « ils ne sont pas tous libres, ceux qui rient de leur chaîne ». Et c'est une phrase qui montre que les auteurs des Lumières étaient tous sauf naïfs quant aux capacités des individus à s'affranchir des traditions par le seul effet de la critique rationnelle. Ils ne sont pas tous libres, ceux qui rient de leur chaîne. Comprenons, beaucoup de ceux qui prétendent être éclairés et émancipés, qui jouent les affranchis, comme on dit, ils ne peuvent s'empêcher, au fond, d'éprouver de l'orgueil et de mépriser les autres. Il faut donc aller plus loin. Il faut refuser cette pieuse folie qui s'imagine avoir un Dieu meilleur. Et de fait, dans la pièce, le seul personnage qui adhère complètement à son identité religieuse, c'est le patriarche, un personnage ridicule, méchant, qui est l'ennemi juré de Nathan. Celui-ci, au contraire, Nathan affirme aux Templiers ceci, « Ni vous, ni moi n'avons choisi notre peuple. » Qu'est-ce que cela veut dire, peuple ? Le chrétien et le juif sont-ils chrétiens et juifs avant d'être hommes ? Et il se réjouit d'avoir trouvé dans son interlocuteur, dit-il, un homme de plus à qui il suffit de s'appeler homme. Cette dynamique qui pousse, on pourrait presque dire cette dialectique, qui pousse à s'affranchir des différences sans les renier tout à fait, eh bien elle trouve une traduction proprement dramaturgique à la fin de la pièce à travers un coup de théâtre, sur le modèle tout à fait classique des scènes de reconnaissance au théâtre, puisqu'on apprend que le Templier est en réalité... Ah, j'avais dit que j'allais divulgâcher, bon. On apprend que le Templier est en réalité... Fermez les oreilles si vous ne voulez pas savoir. Le Templier est en réalité le neveu de Saladin et que Racha, la fille adoptive de Nathan, est sa sœur. Bon, c'est un peu forcé, on est d'accord. Derrière la diversité religieuse, c'est ça qui est important, derrière la diversité religieuse apparente, les liens familiaux réels révèlent l'existence d'une humanité commune. Seul Nathan reste sans famille, mais il est justement celui qui a permis les retrouvailles. Il est celui qui assure non seulement la tolérance, mais aussi la circulation cosmopolite, le franchissement des frontières communautaires en étant l'ami de tous. Alors, arrivé à ce stade, celui de l'amitié comme ferment du cosmopolitisme, je voudrais, comme la semaine dernière, évoquer une lecture du XXe siècle. Alors, il ne s'agira pas cette fois d'Auerbach, mais d'une autre exilée allemande, ayant fui elle aussi le nazisme, Hannah Arendt. Celle-ci, en 1959, était de retour en Allemagne pour recevoir le prix Lessing, que lui attribuait la ville de Hambourg, et elle prononça un discours d'hommage à Lessing intitulé « Men in Dark Times », dont vous trouverez une traduction sous le titre « De l'humanité dans de sombres temps » dans le recueil « Vie politique » publié en 1974 aux éditions Gallimard. C'est un texte magnifique, d'une très grande force, dans lequel Hannah Arendt réfléchit sur ce qui est à ses yeux la grande leçon morale et politique de Lessing. Son sens spécifique de l'humain, fondé sur, dit-elle, une politique de l'amitié. Pour le comprendre, il faut, dit Arendt, distinguer l'amitié de la fraternité. Celle-ci, la fraternité, repose sur la compassion. Et la compassion est un affect, une passion infra-politique, et même dangereuse, parce qu'elle conduit à un égalitarisme extrême qui repose sur l'identification. Le problème de la compassion, lorsqu'elle proclame l'égalité à l'échelle de l'humanité en général, c'est qu'elle est trop teintée de sentimentalité et peut facilement dériver en terreur. C'est, pense Arendt, ce qui est arrivé pendant la Révolution française lorsque l'humanitarisme de la pitié pour les malheureux l'a emporté sur le sens de la justice. C'est la thèse d'Arendt. La pitié nourrit, dit-elle, une forme d'enthousiasme. Elle réduit l'humanité au biologique, à la vie nue. Elle ne respecte pas suffisamment ce qu'il y a d'altérité en l'autre. L'amitié, en revanche, c'est l'affirmation d'un lien entre les étrangers, entre des personnes qui reconnaissent leurs différences mais qui veulent la dépasser, dans la conversation, par la parole. Contre la fraternité, cette fusion sentimentale de deux semblables, l'amitié est la volonté de construire un monde commun par-delà les différences. Or, l'amitié, c'est le grand motif, en réalité, de la pièce de Lessing. Nathan ne cesse de demander à tous ceux qu'il rencontre d'être ses amis. Or, comment se construit cette amitié ? Par la parole, par la conversation, mais aussi par la controverse, par la recherche d'une vérité toujours fuyante. Car voici la condition qui permet l'amitié entre les hommes, le fait que la vérité soit insaisissable, si bien qu'elle nourrit toujours le débat et la discussion. Lessing, je vous l'ai dit tout à l'heure, a toujours proclamé que la recherche de la vérité était préférable à la vérité elle-même. Mais cette limitation de la raison humaine est justement ce qui rend l'homme humain. Et Lessing, nous dit Hannah Arendt, était heureux de sacrifier la vérité à l'amitié et au dialogue. Je la cite, « La grandeur de Lessing ne consiste pas seulement dans la vue théorique qu'il ne peut y avoir de vérité humaine, de vérité unique en ce monde humain, mais dans la joie qu'elle n'existe point et qu'ainsi le dialogue infini des hommes entre eux ne puisse avoir de cesse. » Alors, c'est très beau. Comme l'a remarqué Adam Sutcliffe, il est possible que Arendt exagère les différences culturelles et religieuses entre les personnages de la pièce en faveur de son interprétation, alors que ces différences n'ont en réalité guère de véritable consistance. Nathan, par exemple, dit Adam Sutcliffe, la référence ici, est un juif si peu juif, une idéalisation vide dont la judaïté est peu caractérisée. Il est défini par sa sagesse, mais au fond, ce n'est pas une sagesse juive, c'est une sagesse universelle. Et d'ailleurs, de sa fille Recha, on dit dans la pièce, il l'a instruite de Dieu tout autant qu'il suffit à la raison. Sutcliffe va jusqu'à penser que cette idéalisation qui fait de la figure de Nathan une sorte d'idéal surhumain, un modèle inatteignable de sagesse, est en quelque sorte un cadeau empoisonné fait aux Juifs. Au fond, Lessing leur impose, s'ils veulent se montrer dignes de Nathan, de se fondre dans cet universalisme éthique au préjudice, au détriment de leur spécificité, de leur histoire, de leur croyance. Là où Arendt voit dans la pièce un éloge de l'amitié, un viatique humaniste pour les sombres temps, Sutcliffe y perçoit plutôt une sorte de ruse de la raison éclairée. L'auteur le plus philosémite de son temps, Lessing, en faisant d'un personnage juif l'incarnation de la tolérance et de la sagesse, produit un pluralisme théorique et fictif qui lui évite de penser une véritable reconnaissance de la diversité. Alors, ce sont les questions sur lesquelles nous reviendrons lorsque nous aborderons la question de l'émancipation des Juifs sous la Révolution française, qui pose précisément cette question, vous le savez, du lien entre égalité civique et reconnaissance de la différence. Mais ce que ce parcours nous a montré, je crois, c'est que l'universalisme cosmopolite des Lumières doit toujours négocier la question du pluralisme. Son mouvement est celui d'un rapprochement fondé sur la raison et le désir de paix, mais la reconnaissance mutuelle implique que l'écart ne soit pas trop grand, et par ailleurs, il suppose, comme chez Nathan, une grandeur d'âme peu commune. Le cosmopolitisme est une voie difficile, un pari élitiste et sélectif, une utopie peut-être. Et Lessing lui-même en était bien convaincu. Il serait totalement erroné de voir en lui un doux rêveur, un idéaliste, un optimiste foncier. Il a écrit Nathan le Sage en 1779, quelques mois avant sa mort, en février 1781. Ce n'était pas pour autant un vieil homme, il n'avait que 50 ans, mais il était affaibli et même désespéré par la mort en couche de sa femme l'année précédente, qu'il avait laissé inconsolé. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle l'humanisme optimiste de Lessing, dans Nathan le Sage, cette volonté de ne pas désespérer de l'humain, nous touche particulièrement, nous émeut même, d'autant qu'elle se voile parfois d'une vision beaucoup plus tragique du monde. Au même moment, Lessing écrivait deux autres textes importants, l'éducation du genre humain et ses dialogues maçonniques. Tiens, revoilà la franc-maçonnerie. Dans ces derniers, un des personnages, Ernst, regrette que l'humanité soit toujours nécessairement divisée selon trois lignes de partage irréductibles. Politique d'abord, c'est la pluralité, la multiplicité des États. Religieuse ensuite, du moins linguistique et culturelle. Sociale enfin, en raison des inégalités de fortune. La société ne peut réunir les hommes sans les diviser, sans creuser des abîmes entre eux, sans établir entre eux des barrières. C'est une citation. Ces divisions sont le propre même des sociétés, sont l'envers de la sociabilité humaine. Mais ces barrières, qui ne peuvent être effacées, ne sont pas totalement insurmontables ou pas toujours insurmontables. Il faut, déclare Ernst, souhaiter qu'il existe dans chaque religion des hommes qui ne croient pas détenir la vérité, dans chaque société des individus qui ne s'aveuglent pas aux honneurs et ne méprisent pas les pauvres, et enfin, dans chaque État, des hommes capables de surmonter les préjugés pour déterminer exactement, et c'est la phrase de Lessing, le moment où le patriotisme cesse d'être une vertu. À quoi son interlocuteur répond: oui, souhaitons-le ardemment. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.